Vous êtes sur Easy French.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord de vol 75 destination de Paris. Je suis David, votre capitaine. L'heure de notre vol est de 4h30 avec une température maintenant à destination 29 degrés Celsius. Encore une fois, bienvenue à bord.
Bienvenue à bord de ce troisième épisode du podcast Easy French. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler de voyage. Et avant tout, on tient à remercier David qui nous a préparé cette petite introduction. C'est un pilote du Toronto qui est aussi abonné à Easy French. Il apprend le français et ce petit texte, il l'a appris alors qu'il ne parlait pas du tout français. Alors, pourquoi le sujet du voyage aujourd'hui? C'est très simple, on va voyager toutes les trois bientôt à Barcelone pour un séminaire d'entraînement avec Easy Languages. Et puis aussi, pour plein d'autres raisons, Hélène, qui a voyagé en Éthiopie en février, a fait son tout premier voyage hors d'Europe. On espère qu'elle va nous raconter plein d'anecdotes. Et Rita, que l'on ne présente plus, est une grande voyageuse depuis toujours.
Appelez-moi Dora l'exploratrice.
Ta-ta-ta-ta-la Dora. Du coup, Hélène, l'Éthiopie, est-ce que tu as des choses à nous raconter dessus? Enfin, je me doute que tu en as plein, mais par où commencer?
Par où commencer? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Peut-être par la raison pour laquelle je suis partie là-bas. Donc, je n'ai pas choisi l'Éthiopie au hasard, bien que ce soit un pays magnifique que beaucoup de gens décident de visiter simplement pour le tourisme. Moi, je suis partie parce que j'ai voulu retrouver mon chéri qui est là-bas en ce moment et qui est originaire de l'Éthiopie, qui vit en ce moment. Et donc, je suis allée là-bas pour le voir et pour découvrir sa culture et rencontrer ses amis, rencontrer sa famille. Donc, c'était un voyage pas seulement touristique, mais aussi personnel, surtout personnel.
Et c'était... Est-ce que c'est pas la plus belle raison de voyager?
Absolument. Pour moi, c'est la plus belle raison de voyager, ça, c'est sûr. Et c'était aussi le plus beau voyage que j'ai fait. Non seulement pour ces raisons-là, mais aussi parce que c'est un pays absolument incroyable, avec une culture unique, qui est vraiment très, très spéciale, que ce soit en termes d'art, de cuisine, de... Même les vêtements, les danses, il y a beaucoup de choses à découvrir. Les paysages sont absolument magnifiques. C'est un pays très verdoyant, avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres, beaucoup d'animaux que je n'avais jamais eu l'occasion de voir, ou en tout cas pas dans leur univers habituel. J'avais plutôt vu ces animaux-là dans un zoo, par exemple, mais là, ils étaient en pleine nature. J'ai vu des crocodiles de très, très près. C'est beaucoup plus gros qu'on ne le pense. Ça peut faire jusqu'à 4 mètres de long, les amis. Donc, c'est assez impressionnant. Et le plus impressionnant, ce n'est pas leur taille. Mais moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est qu'ils se reposent la bouche ouverte. Et c'est très bizarre à voir, de voir leur grande bouche ouverte. Ils n'ont pas de langue. Donc, ils ont des grandes dents.
Ils n'ont pas de langue?
Non. Ils ont des grandes dents. Et ils se laissent se reposer la bouche ouverte. Comme ça, et c'est assez impressionnant de les voir se prélasser au bord de l'eau et de pouvoir les regarder depuis un petit bateau. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai vu des singes aussi. Alors moi, j'étais complètement excitée de voir des singes. Mais là-bas, les gens les aiment pas du tout. C'est un peu comme pour nous, les pigeons. Donc, ils les trouvent vraiment désagréables et ils ont pas du tout envie d'aller s'approcher d'eux.
Mais je rêve de voir des singes.
Ouais, moi, j'étais vraiment contente aussi de les voir dans leur environnement naturel. Et ils n'avaient pas du tout peur. Au contraire, ils étaient vraiment chez eux. Et donc, c'était moi qui était une intruse, on va dire, dans leur environnement. Et donc, ça se voyait qu'ils ne me craignaient pas. Mais au contraire, ils marquaient vraiment que c'était chez eux. Donc ça, c'était assez original comme expérience.
Je trouve ça super que tu parles du fait qu'ils se sentent dans leur habitat naturel et qu'on est un peu les intrus chez eux. Ça me rappelle un petit voyage qu'on avait fait avec Rémi sur l'île de Tioman en Malaisie. Et on venait de s'installer dans une chambre d'hôtel superbe avec des arbres aussi, enfin une nature quand même assez incroyable, une mer pas possible en face de nous. Et on était vraiment dans la jungle, quoi, tout seul. Et là, on s'est mis sur le balcon et Rémi a posé son petit café sur le balcon tranquille. Et il revient, il y avait un singe qui était en train de le boire comme ça à la main. Et puis Rémi, et puis avec des gros crocs, hein, c'est pas un gentil singe. Hein. Et donc Rémi qui essaie de le renvoyer quoi, avec les mains. Et il était là bien en mode guerrier, non, 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 je lâche pas ton café. Et donc là, il y a une autre femelle qui arrive et ils ont commencé à faire leur petit truc entre eux, à se reproduire tranquillement tout en buvant du café.
C'est incroyable comme histoire.
Je ne savais pas que les singes aimaient le café. D'ailleurs, à propos de café, l'Éthiopie, c'est vraiment le pays du café. Et j'ai bu du café absolument divin là-bas. Moi qui adore le café, je me suis vraiment régalée. Et puis, il y a aussi toute une tradition autour du café qui est vraiment intéressante et très fascinante quand on n'a pas l'habitude de ce genre de tradition. La préparation du café, c'est vraiment tout un rituel. On prend les graines de café qui sont sèches et elles se font griller dans une toute petite poêle au-dessus d'un feu. On les secoue et ensuite, on moule le café dans un mortier. Et quand on sert le café, on peut aussi mettre une petite fumée de l'encens. Et il y a cette odeur d'encens qui embaume la pièce avec aussi l'odeur des grains de café qui ont été grillés. Donc, c'est un mélange d'odeurs et de saveurs. La saveur du café avec toutes ces odeurs dans toute la maison, ça sent vraiment ce mélange à la fois d'encens et de café bien, bien fraîchement grillé et moulu. Et c'est une expérience sensorielle unique.
Tu l'as si bien décrit que j'ai presque l'odeur dans les narines. Pas toi, Rita ?
Ah, complètement. Et moi qui déteste le café, malgré ça, là, comment elle le décrit, ça m'a donné envie. J'étais imprégnée de cette image, ces odeurs. Waouh ! C'est vraiment, ça doit être un beau voyage, même spirituel, limite. Et pas que, voilà, physique ou touristique.
Oui, oui, oui. Il y a tout qui est... tous les sens sont, on va dire, stimulés par plein de choses. On voit des choses incroyables, on sent ces odeurs dont on n'a pas l'habitude. L'odeur des fruits aussi, les bananes sentent tellement bon, les avocats, les mangues, les papayes, tous les fruits sentent tellement bon. Et puis, on voit toutes ces choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, ces paysages avec des grands bananiers, des grands lacs. Ça, c'était dans le sud et c'était vraiment impressionnant. Et puis, on entend aussi des choses... Bon, dans la ville de Addis Abeba, c'est plus le bruit des voitures et des klaxons, mais il y a aussi d'autres choses. Les musiques, ils ont une musique aussi qui est propre à leur pays. Donc, c'est des chants, des chansons en amharique, qui est la langue locale, mais aussi beaucoup de chansons dans des langues régionales. Et on entend ça dans les taxis, d'ailleurs, souvent à la radio. C'est plutôt des chansons de là-bas que des musiques américaines. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'expérience.
Incroyable. On aime bien aussi, alors pas se goinfrer, mais aller dans des restaurants et on a, entre autres, testé un restaurant éthiopien. Quand Hélène est retournée d'Éthiopie, on a voulu un peu la garder un peu dans l'ambiance. Et il était où ce restaurant, Hélène ?
Alors, c'était un tout petit restaurant dans le quartier, on peut dire vers le quartier latin. C'était dans le 5e arrondissement, proche du Panthéon. Et juste à côté de mon ancienne université Sorbonne Nouvelle. Et c'est un petit restaurant qui s'appelle Gojo, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une cuisine familiale. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et on rentre là-dedans. C'est tout petit et il y a plein, plein d'odeurs d'épices. Il y a toute cette belle décoration qui donne vraiment l'impression d'être en Éthiopie. On entend la langue qui est parlée par dans les cuisines et aussi par les serveuses qui parlent entre elles en amharique. Donc, c'est vraiment un petit voyage au cœur de Paris. Et la cuisine, moi, je l'adore, cette cuisine éthiopienne qui est très, très épicée, très parfumée, très, très mijotée et qui est aussi plutôt adaptée aux végétariens comme moi. Il y a bien sûr beaucoup de plats avec de la viande qui sont souvent les plats préférés des Éthiopiens. Par exemple, le Doro Wot, c'est du poulet. Voilà, c'est un plat qui sert souvent pour les occasions. Mais pour les végétariens, il y a beaucoup de choses à base de pois cassés, de lentilles, de toutes sortes qui sont mijotées avec des légumes, avec beaucoup d'épices. Et on mange ça avec une espèce de crêpe. Enfin, ça a l'aspect d'une crêpe un peu épaisse, mais ça n'a pas du tout le goût d'une crêpe. Comment vous décririez le goût de cette
Ah oui, ça a été une vraie découverte. Hein. J'avais rien mangé de pareil. C'est une espèce d'effectivement de crêpe assez légère, aérienne, avec un goût un peu acide, comme dans le pain parfois, quand il y a le petit goût de levure. Et effectivement, ça sert aussi un peu de couvert au final. On mange avec ça et c'était très très bon.
Et ça s'appelle injera pour le mot, si jamais vous avez envie de savoir ce que c'est, de le goûter. Injera.
La minute culture.
Alors les amis, est-ce qu'il y a un artiste francophone, un film, un spectacle que vous avez vu à la télé ou bien même une chaîne YouTube que vous aimeriez recommander à nos auditeurs?
Alors, si on reste sur le thème du voyage, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a intitulé notre épisode, en référence à une chanson qui est très très connue en France, mais aussi en Europe, il me semble, qui s'appelle « Voyage, voyage ». C'est une chanson emblématique, je pense, d'une certaine période, des années 80, je dirais, qui a été chantée par la chanteuse Desireless. C'était son tout premier tube, il me semble. Donc, c'est assez emblématique ouais, de cette période et de cette chanteuse.
On va voir si c'est possible avec notre avocat, mais peut-être qu'on vous mettra un extrait juste ici.
Sinon, on peut la chanter aussi, peut-être. Hein.
Après, si c'est mal chanté, peut-être qu'il te pardonne.
Ouais, n'hésitez pas à l'écouter et à la chanter pour pratiquer votre français.
Et alors, du coup, voyage, voyage, si on devait chanter le refrain, ça donne quoi?
Voyage, voyage. Voilà.
Voyage, voyage.
Plus loin, voyage.
Il y a bien un groupe qui est aussi emblématique en France, que j'aime beaucoup depuis toujours, et que je trouve qui est indémodable, c'est Téléphone. C'est aussi les années 80. Hein. Donc Téléphone, tapez Téléphone, chanson Cendrillon, et ça, c'est, on a passé des soirées dessus. Pas dans les années 80, parce que je venais de naître, mais, mais des soirées avec les copains, écoutez ça. Voilà. Et vous, les filles, vous aimez bien ou pas Téléphone?
Moi, j'aime bien parce que c'est un des groupes préférés de mon papa. Donc, j'ai entendu ça beaucoup dans mon enfance. Et c'est pour moi... Oui, donc tu aimes les mêmes groupes de musique que mon père, hein, qui a la cinquantaine.
Tout à fait rassurant. C'est un grand homme, hein, avec très bon goût.
Oui, 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 oui. Et c'était son époque, lui, pour le coup, parce que c'était sa jeunesse. Et donc, j'ai beaucoup entendu ses chansons par mon père. Et donc, j'associe ça à mon enfance et j'aime bien pour ça, ouais, pour ce que ça me rappelle comme souvenir. Et aussi, c'est vrai que les paroles sont assez faciles à retenir, j'ai l'impression. Donc, on les connaît facilement par cœur et on peut les chanter en chœur avec un peu tout le monde dans les soirées, un petit peu arrosées. À la fin de la soirée, le petit tube de Téléphone où tout le monde chante ensemble, c'est toujours super sympa.
J'ai capté. Alors, les filles, on parle de voyage et souvent quand on voyage, alors surtout quand on voyage en France ou alors dans des pays en Europe assez proches de la France, on peut être amené à prendre deux types de transports, le TGV et le TER. Alors, les filles, que signifient ces initiales?
Alors déjà, c'est vrai qu'il me semble qu'en France, on aime beaucoup les sigles et les initiales pour désigner des choses de la vie courante. Et ça peut être parfois un petit peu perturbant quand on est étranger parce qu'on ne comprend pas et ça paraît évident pour tout le monde. Ça paraît tellement évident qu'on n'ose pas toujours poser la question et donc on peut passer beaucoup de temps sans savoir ce que c'est. Et puis un jour, on finit par le découvrir et on se dit « Waouh, c'était ça alors, le TER ou le TGV ?» Donc, c'est vrai que si vous ne savez pas, les amis, vous pouvez là essayer de deviner un petit peu. Donc, déjà, ce sont deux moyens de transport sur chemin de fer. Donc, ce sont des trains. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre.
Alors, le TER, c'est le train extrêmement ralenti.
C'est vrai que le TER, en général, c'est assez lent, malheureusement.
Voilà, c'est ça. C'est un train qui est plutôt lent, mais qui a l'avantage de circuler dans beaucoup de d'endroits un petit peu reculés, de petites villes. Et c'est pour ça qu'il s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, le TER, qui signifie train express régional. Ah pardon, je viens de vérifier pour le TER, c'est pas train express régional, mais transport.
C'est transport.
Express.
Voilà, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est un train, parce que sinon, ce n'était pas possible. Ça abusait tellement. C'est plus un train, c'est moi, je marche à pied plus vite, quoi.
C'est un transport.
Il y a un contrôleur qui vient bien vérifier vos billets.
N'oubliez pas de composter si vous prenez votre billet en gare, parce que ça ne suffit pas d'avoir le billet, il faut qu'il soit composté. Donc, passer dans un petit, une petite machine qui va mettre un petit tampon ou un petit trou et qui va prouver que vous avez non seulement payé pour votre billet, mais que vous l'avez validé. Voilà, très important. C'est vrai, effectivement. Ouais, ouais, ouais.
Et alors, le TGV dans tout ça, c'est pas le TER, c'est beaucoup plus rapide, parce que TGV, c'est les initiales de...
Train, ça c'est sûr.
Grande, ça c'est sûr.
Vitesse.
Train à grande vitesse.
Voilà, et ça c'est le train qu'on prend en général pour aller dans des grandes villes. Donc on peut faire Paris, Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Lyon. Il y a même des TGV qui vont à l'extérieur de France. Hein. Et c'est un train qui va quand même très très vite. Par exemple, Paris-Bordeaux, ça peut se faire en 2 heures. Et c'est quand même environ 600 kilomètres. Donc, c'est vraiment rapide. Pour aller à Marseille, il me semble que c'est dans les 3h30, quelque chose comme ça. Ouais, 3 heures, alors que c'est aussi très, très loin. Je dirais peut-être même 800 kilomètres, si je ne dis pas trop de bêtises. Ouais, c'est vraiment loin. Donc, le TGV, ça permet d'aller très, très vite. Et c'est quand même plutôt pratique.
Les filles. Petit défi du jour, question piège, attention. Si vous deviez choisir entre eux, ne plus jamais quitter la France ou partir vivre à l'étranger et ne jamais retourner en France. Je sais, c'est une question difficile. Que choisiriez-vous ?
Waouh, c'est vraiment, vraiment difficile comme question. Et évidemment, heureusement que c'est un jeu et que ce n'est pas la réalité, parce que je pense qu'on serait très, très embêtés si on devait faire ce choix dans la réalité. Moi, j'y ai pas mal réfléchi et je pense que je choisirais de rester en France et de ne pas partir ailleurs. Mais ce serait bien sûr vraiment un choix par défaut et pas du tout par volonté de ne jamais quitter la France, mais... L'idée de ne pas pouvoir rentrer chez moi, pour moi, c'est vraiment très, très inquiétant. Et je pense que je serais très inquiète et très mal à l'aise de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Parce que même si, imaginons, un jour, je vais m'installer à l'étranger, comme j'ai pu aussi le faire dans le passé, je sais quand même que la France, c'est chez moi et que si je ne peux pas retourner chez moi, bah, ça a quelque chose d'angoissant, je trouve, pour moi, qui suis quelqu'un qui est grandi en France et qui n'est pas beaucoup bougé. Peut-être que ça ajoute à ça, au fait que ça m'angoisserait beaucoup de ne pas pouvoir y revenir.
Je te comprends complètement, Hélène. Bon, déjà, le fait que, heureusement, on n'a pas à choisir ce genre de choses dans la vraie vie, même si, en vrai, pendant la pandémie, on était quand même confrontés à ça. Quand on ne pouvait plus bouger, voyager et tout, on était bien bloqués ici. Moi qui voyageais beaucoup, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir eu ma fille en même temps, donc j'y ai pas trop pensé, on va dire, au début, parce que j'étais prise à m'occuper de mon bébé. Mais c'est vrai que c'est moi, c'est l'inverse. C'est l'angoisse de devoir être enfermée dans un seul endroit, de pas pouvoir voyager. Et puis surtout, moi, j'ai mes parents qui sont à l'étranger, j'ai de la famille un peu partout. Pour avoir créé des racines partout, moi, mon chez-moi, il est un peu partout, donc ça serait vraiment une angoisse incroyable. Après, la réalité, c'est que si je devais vraiment choisir, bah, ma petite famille, elle est là. Hein. Il y a mon mari, mon bébé qui est là. Donc, comme Hélène, me dire, après, s'ils viennent avec moi, c'est autre chose. Mais me dire de ne plus pouvoir rentrer ici, et on sait ce qu'on a déjà ici, donc j'irai nulle part ailleurs. Je resterai la mort dans l'âme. Je ne bougerai plus. Mais après, il y a de très belles choses à voir en France aussi. Donc, si on peut bouger en France, on est quand même bien lotis. On a des belles... On a un TGV pour aller partout. Donc, ça irait, je resterai en France. Mais c'est vrai que dans mon cas précis, n'ayant pas grandi simplement ici, hein, la famille à l'étranger, la famille proche, donc mes parents, une de mes sœurs également, c'est très compliqué pour moi. Mais oui, donc heureusement qu'on ne se pose pas la question. Mais avec la pandémie, on a été confrontés à ça. On ne pouvait plus bouger. Et donc, moi, j'étais pas trop angoissée. J'étais contente d'être là. Je m'occupais de mon bébé. J'étais avec mon chéri. Mais très vite, il fallait que je présente ma fille à mes parents. Ne pas pouvoir leur présenter, c'était une angoisse sans nom. Donc, je l'ai vécu, ça, quelque part. Mais est-ce pour autant que j'aurais pas voulu rentrer ici? Non. Donc, non, ne faites jamais ça. Ne me posez jamais la question et ne me mettez pas dans ce dilemme incroyable. Sinon, j'inventerai la téléportation. Voilà. Tout est possible avec moi.
Tu en es capable.
Non, on rigole, mais...
Et toi, Judith, tu veux bien répondre à la question aussi, même si c'est toi qui la pose?
Oui, bien sûr, j'y ai réfléchi aussi. Et au risque de plomber un peu l'ambiance, c'est vrai que dans cette entre-deux tours de la présidentielle, avec l'extrême droite quasiment aux portes du pouvoir, je crois que ma réponse en quelques jours a changé. Pour moi, c'était évident. J'ai un amour qui est sans fin, inconditionnel pour la France. Enfin, que je pensais inconditionnel. Et c'est vrai que dans l'époque actuelle, je crois que je dirais que je prendrais quand même le risque de partir vivre à l'étranger. Au risque, effectivement, de ne plus revenir en France. Je crois qu'effectivement, comme vous dites, les filles, quel que soit le choix, c'est un choix qu'on dit cornélien. Ce serait énormément de souffrance et de tristesse. Mais voilà, je me dis qu'il y a des pays qui sont francophones. Je pourrais retrouver un peu de la culture française à l'étranger. Je me ferais importer du comté, du reblochon, des bonnes baguettes. Bah, alors qu'ils seront plus très fraîches, mais c'est une question qui est extrêmement difficile.
Je râle, tu râles, nous râlons.
Ça, c'est ma partie préférée. Râler en liberté, yes! Alors moi, quand j'ai réfléchi à ça, parce que moi, je voyage beaucoup en train, parce que je vais souvent à Bordeaux ou parfois à Marseille, et je prends toujours le train, le TGV. Et il y a vraiment un truc qui m'insupporte dans le TGV, c'est les odeurs de nourriture. J'en ai parlé avec plusieurs personnes et des gens m'ont dit « Ah bon, mais pas du tout, ah non, moi ça me gêne pas, mais quelles odeurs. » Mais pour moi, c'est vraiment une énorme perturbation quand je suis dans le TGV et que je sens des odeurs, par exemple de pâté, c'est une odeur qui me dégoûte absolument. Si vous savez pas ce que c'est le pâté, c'est une sorte de pâte faite à partir de porc, souvent. Et donc, c'est de la viande de porc qu'on étale sur du pain, généralement. Et ça a une odeur très, très forte, je trouve, et je déteste ça. Donc, quand il y a des gens à côté de moi dans le TGV qui mangent des sandwichs au pâté, je trouve que c'est insupportable. Ou les sandwichs au thon. Alors, le thon, là, c'est vraiment, c'est criminel de manger des sandwichs au thon.
Ça sent les vacances.
Ouais.
Le McDo, c'est tout le wagon qui a pris pour son grade, quoi.
Vraiment. Et c'est une odeur très spécifique, quoi. Tout le monde peut la reconnaître. Je ne sais pas ce qui donne cette odeur au produit McDo, mais c'est dégoûtant.
On ne veut pas savoir.
Vraiment insupportable. Ou même les œufs durs. Moi aussi, je déteste l'odeur des œufs durs dans le train. Ouais, ça me dégoûte vraiment. Et vous, les filles, il y a des trucs qui vous insupportent quand vous voyagez dans le train ou dans l'avion ou en attendant le train ou en attendant l'avion?
Moi, il y a une chose qui peut me rendre folle pendant tout un trajet en avion et ça m'arrive à chaque fois. C'est les gens qui allongent leur siège.
Moi, je les remercie quand même, hein, parce que quand t'as 13 heures de vol, t'es contente d'avoir deux sièges qui reculent quand même. Hein.
Les ondes joyeuses.
Ma fille a fait 2 ans. Je suis trop contente.
Joyeux anniversaire, Albinoï. Alors, pour cet épisode, on a eu envie de vous partager un peu les petits bonheurs avant le départ du train.
Mon petit moment de bonheur avant de prendre le train, c'est de passer m'acheter un petit café et une petite viennoiserie, un petit croissant. Et je sais que je fais ça très rarement, donc ça, c'est vraiment associé au départ en train. C'est le petit plaisir avant le départ en train. On prend son petit café à emporter, sa petite viennoiserie. Et ce que je fais encore plus rarement, seulement de temps en temps, quand je prends le train, c'est aller m'acheter un petit magazine que je vais lire tranquillement dans le train. Et ça, j'adore, justement parce que c'est assez exceptionnel.
C'est vraiment les petits bonheurs du quotidien. C'est génial. J'avoue que moi aussi, j'aime beaucoup faire ça, acheter une viennoiserie, un café ou même un magazine avant un départ. Et en réfléchissant à cet épisode, je me suis souvenue d'un truc que je fais, alors que je faisais avant le confinement, quand je prenais l'avion. C'était vraiment un truc que je faisais à chaque fois. J'arrivais toujours à l'aéroport pas maquillée et j'allais dans la boutique Duty Free et je me faisais un maquillage complet avec que du maquillage de luxe. Et ça, c'était vraiment mon bonheur de l'attente de l'aéroport. Je savais que j'allais passer 1 heure dans Duty Free à tout essayer.
C'est trop mignon. Par contre, mon plaisir vraiment, Comme a dit Hélène, aller prendre un bon petit café ou quelque chose, surtout un bon petit magazine. J'aime bien feuilleter dans les relais là, qu'il y a dans les gares, les petits ouvrages qu'il peut y avoir, les petits livres ou les magazines. Des magazines que je lis pas généralement, par exemple Science et Vie, des choses comme ça, où je regarde les différents, les derniers articles qu'il y a eu, des choses que j'aimais bien lire plus jeune. Voilà. Et puis même le plaisir de me demander d'imaginer, j'adore imaginer dans la gare toutes les histoires des gens qui passent. Donc quand je bois mon café, franchement, j'ai ce délire là, moi qui parle beaucoup, de me taire plutôt et de profiter de ce qui est devant moi. Et je me demande où ils vont ces gens, où est-ce qu'ils voyagent, qui les attend, qui vont rencontrer, qu'est-ce que je vais avoir à côté de moi, et si c'est des gens sympas ou pas, si on pourra discuter, si on pourra rigoler. Enfin, tout ça, c'est mon petit moment. C'est ce que j'aime bien. C'est vraiment l'imagination de toutes ces vies là qui se croisent dans cet espace.
Voilà. C'est tellement poétique.
Vos questions. Et alors, on passe à notre dernière rubrique, celle qui nous fait très plaisir, de répondre à vos questions. Alors, on a cherché un peu dans les questions qui sont régulièrement posées, celles qui étaient un peu en rapport avec le voyage. Et donc, Hélène a trouvé des questions qui étaient revenues très souvent dans l'épisode Easy French, le 100e épisode. On nous a demandé à plusieurs reprises pourquoi les Français aimaient autant l'Amérique latine. Vaste question.
Ouais, c'est une question qui revient souvent dans les commentaires de cette vidéo Destination de rêve, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans la vidéo qui ont répondu « Oh, j'adorerais voyager en Amérique latine ». Il y a des gens qui ont dit l'Argentine ou bien la Colombie, le Pérou. Il y a eu beaucoup de réponses comme ça et des personnes qui peuvent venir de ces pays-là ont répondu dans les commentaires « Oh, waouh, ça m'étonne, c'est super de voir que tous ces Français rêvent de découvrir notre pays et ça peut les étonner ». Et donc, moi, j'ai essayé de réfléchir un peu, de me demander pourquoi, tout simplement. Et je me suis dit que déjà, c'était peut-être des pays où les Français pouvaient communiquer facilement avec les locaux, parce que beaucoup de ces pays ont comme langue... l'espagnol, donc beaucoup de Français parlent ou en tout cas se débrouillent en espagnol. Donc je pense que ça peut-être les pousser un peu à choisir des destinations comme ça qui sont à la fois très lointaines. Donc c'est quand même une grande aventure de partir là-bas pour nous. Mais en même temps, on se dit qu'on aura un point d'accroche avec la langue qui pourra peut-être permettre de faciliter les choses.
Si on part du principe que vraiment tout, enfin pas tout, mais la plupart des gens aiment bien, alors il y a l'affinité culturelle, le côté langue très proche, etc. Même si l'Amérique latine est très diverse et quand même elle a des choses très éloignées de la France, mais il y a quand même une diplomatie assez forte depuis très longtemps qui a été mise en place. Et la France, déjà, elle rayonne beaucoup en Amérique latine, donc il y a cet amour un peu... D'ailleurs, c'est un dépit amoureux, hein, mais il y a un amour qui est très fort et la présence française qui est très forte là-bas, qui fait que aussi au niveau musée, au niveau film, et tout ce qui est proposé au public français vient beaucoup d'Amérique latine. Donc ça joue sur l'imaginaire, ça favorise donc une envie de découverte de ces pays-là, et ça contribue aussi à l'amour qui existe pour ces pays. Après, évidemment qu'il faut qu'on les aime, parce qu'ils sont incroyables. Maintenant, je pense aussi que la plupart y pensent, parce qu'il y a beaucoup aussi d'offres qui se font pour aller dans ces pays, à partir de chez nous. Et puis, alors, pour revenir à la sociologie, il y avait pendant très longtemps, je ne sais plus si c'est le cas maintenant, parce qu'il y a eu quand même les études d'Amérique latine en France, etc. C'était un laboratoire très fort pour les scientifiques et pour autres, assez fécond, l'Amérique latine. Donc, beaucoup de Français y allaient pour étudier plein de choses, que ce soit de l'anthropologie, à l'histoire. Et puis, il ne faut pas oublier, peut-être qu'il y a aussi beaucoup, il y a une grosse immigration forte d'Européens, en général, aussi françaises également, qui sont parties en Amérique latine. Et ces gens-là sont un pont, ont créé un pont entre la France et l'Amérique latine, spécifiquement l'Argentine, le Brésil, où il y a des liens très précis, très forts, et ailleurs, hein, pas que. Et du coup, forcément, ça fait rêver. Puis après, tous ceux qui sont partis, les explorateurs, ils envoient des photos de rêve aux gens, parce qu'ils ont des paysages incroyables, des cultures riches, de la musique pas possible, de la nourriture très bonne. Donc forcément, ça donne envie, qu'il n'y a pas envie d'y aller. Je pense que c'est un peu de tout ça qui fait que le public français pense très vite à l'Amérique latine. On pense à la joie de vivre, on pense à la chaleur, on pense aux belles plages, on pense aux belles femmes, et tout ça mélangé, quoi. Donc voilà.
Mais écoutez, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, les amis. On espère de tout cœur vous retrouver la semaine prochaine. Et on vous dit à très très vite. Et surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire. On est toujours ravis de vous lire et de communiquer avec vous.